Quelles sont les véritables applications de l'IA dans la vente? S'agit-il d'une réalité ou de science-fiction? L'intelligence artificielle est revenue en grâce dès les années 2016-17 et nous avons d'ailleurs lancé une grande série sur ce sujet en rapport avec le domaine de la vente sur ce blog Sales and Marketing Insiders à cette époque-là. J'ai de cette période le souvenir d'une discussion animée par Bertrand Lenôtre pour Digital Business News au sommet du navire amiral de WeWork rue Lafayette. La table ronde qui regroupait les start-upers de l'IA et à laquelle je participais s'était assez rapidement centrée sur ce qu'était vraiment l'IA et ce qu'elle n'était pas. Il est vrai qu'au sortir de l'hiver nucléaire de l'IA, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de 1990 à 2015 environ, une période que j'ai connue, ayant la charge à l'époque d'un système expert. On mélangeait un peu à l'époque tous ces concepts et on a vu une grande tendance à nommer IA à peu près tout et n'importe quoi qui contient un algorithme, donc un programme, ce qui, vous en conviendrez, englobait beaucoup de choses. Il est temps donc, quelques 5 ans plus tard, de sortir de cette soupe d'acronymes, la tendance décrite ci-dessus n'ayant pas complètement disparu, pour se poser la question de quelles technologies de la grande famille de l'IA peuvent et comment aider le domaine de la vente. Pour le savoir, j'ai interviewé Alexandre Verneau, CTO de Sparklane, en lui demandant plus particulièrement de faire le distinguo entre IA forte et faible. Alexandre m'a permis, au cours de cet entretien très riche, de mieux comprendre la réalité et les perspectives d'application de l'IA dans le domaine de la vente.
Vous écoutez bien les podcasts de Sparklane sur le blog Sales and Marketing Insiders, le blog d'information sur la vente en B2B.
Bonjour, je suis Yann Gourvenec de Visionary Marketing et aujourd'hui sur le blog Sales and Marketing Insiders, nous allons vous parler de l'IA forte et faible et ses applications pour la vente avec Alexandre Verneau, Chief Technology Officer de Sparklane.
Alors je suis avec Alexandre Verneau. Bonjour Alexandre, vous êtes CTO de Sparklane et nous allons parler d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, on va commencer par quelque chose qui me titille depuis assez longtemps, c'est la définition entre IA forte et IA faible. Qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui est de la science-fiction?
C'est une bonne introduction parce qu'effectivement, dans ces notions-là, les mots ont un sens et avoir une définition précise, c'est commencer à mieux palper les choses et à mieux les appréhender. Et comme c'est un domaine qui est de plus en plus omniprésent dans notre quotidien, c'est important et ça sera de plus en plus de bien comprendre ce qui est de la réalité, ce qui est du futur. Est-ce que c'est de la science-fiction? Une partie du futur est de la science-fiction, le reste, c'est l'avenir.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve donc, justement, notamment dans le domaine commercial? Qu'est-ce qui existe vraiment? Parce que tout le monde se vante d'avoir de l'intelligence artificielle dans son moteur. Mais enfin, la plupart du temps, quand on gratte un peu, on vous dit « oui, mais c'est un algorithme ». Oui, merci pour lui.
On est effectivement toujours sur des algorithmes. Mais pour faire la distinction entre IA faible et IA forte, hein, donc entre intelligence artificielle faible et forte, il y a aussi une troisième notion qu'on entend, c'est l'intelligence artificielle généralisée, qui se rapproche pas mal de l'intelligence artificielle forte. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de l'intelligence artificielle faible. Hein. Donc ce sont des spécialisations sur un domaine bien précis où la machine va être capable d'être plus efficace généralement que l'humain parce qu'elle a une capacité de calcul très importante et sur un domaine bien précis, elle va arriver à faire mieux, à répliquer mieux, à tester plus de variétés de cas que pourrait faire l'humain et aboutir à un résultat en termes de temps et d'efficacité supérieur. Ce qui le différencie de l'IA forte, là, on est plutôt dans une notion qui reste à écrire, qui reste à définir, mais on a une notion de conscience, c'est-à-dire que l'algorithme est suffisamment générique pour avoir une sorte de conscience de ce qu'il fait, une sorte d'introspection. Il est en capacité un petit peu à expliquer comment il aboutit à ce résultat-là. on se rapproche un peu des visions des robots qui sauraient interagir avec un humain. Bon, évidemment, c'est graduel, hein, on voit bien qu'il y a un continuum entre tout ça, et que petit à petit, plus on met des briques spécialisées ensemble, plus on commence à avoir quelque chose. Et bon, c'est un domaine, évidemment, il y a énormément de recherches, mais aujourd'hui, il y a pas ou peu de cas commercialisés. Tous les cas commercialisés et tous ceux qu'on a dans notre quotidien, on est sur l'IA faible. Et c'est ça qui aujourd'hui fait progresser le domaine, parce qu'on va vers des cas de plus en plus complexes, de plus en plus diversifiés. Peut-être le meilleur exemple en pointe aujourd'hui, c'est tout ce qui est conduite automatique, où on a un mélange entre la vision, l'interprétation des objets, un véhicule avec à mouvoir dans un espace. Et évidemment, c'est très complexe, hein. Il faut anticiper le comportement des piétons, des cyclistes, des autres automobilistes. Il y a énormément de concepts qui viennent là-dedans. Mais on reste sur un enchaînement de règles. Le véhicule n'a pas conscience de conduire ou d'avoir un accident ou de respecter des règles. Au contraire, c'est des règles externes. Il ne fait que respecter des règles internes par rapport à un ensemble de données qu'on lui a données.
Oui. En fait, faire de l'informatique pour automatiser, aller plus vite et bâtir des algorithmes parce que c'est plus puissant que l'humain, c'est en fait, c'est le, pour être un peu désagréable, c'est le fondement de l'informatique, ça, si j'ai bien compris. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Peut-être, peut-être se focaliser sur le machine learning, peut-être.
Ouais, ce qu'il y a de nouveau dans l'approche, c'est que jusqu'à présent, l'informatique, on écrivait des règles et l'ordinateur suivait des règles prédéfinies, des règles qui étaient écrites par le développeur. La différence avec le machine learning, c'est qu'on n'écrit plus les règles explicites du comportement attendu, mais on donne une capacité à la machine d'apprendre elle-même des règles à partir d'un ensemble de données qui constituent son apprentissage. Un peu comme un enfant va avoir une suite d'exercices, et puis au bout d'un moment, il aura compris qu'il y a un concept qui émerge et il pourra répondre à d'autres exercices similaires sur cette base-là. Et c'est là toute la différence, c'est que quand on est dans un cas trop complexe pour écrire toutes les règles, on ne va pas prendre un temps infini pour en lister l'ensemble de celles qu'on imagine, sachant qu'on passera toujours à côté de certaines. On donne plutôt tous les cas disponibles qu'on a enregistrés au préalable et qu'on peut continuer à enregistrer au fil du temps. Et cette alimentation permet à la machine de définir ses propres règles. Donc, ces règles émergent d'un ensemble de... Alors, on est toujours sur des algorithmes, hein, ça reste... Oui. Mais l'approche est différente, c'est qu'on ne code plus les règles explicites, on est sur des méta-règles qui codent plutôt l'apprentissage de la machine.
Il y a quand même des garde-fous. Sinon, ça peut partir n'importe où.
Et bien souvent, ça part n'importe où. C'est là où c'est difficile, c'est que c'est un outil qui est complexe à utiliser. Mais c'est une boîte à outils. Le machine learning, ça regroupe plusieurs notions. Donc l'apprentissage de la machine, il y a plein de façons de le faire. On le fait déjà depuis 40 à 50 ans, hein, suivant les premiers travaux. Et petit à petit, on est devenu plus expert. Surtout, ce qui a changé, c'est que la puissance de calcul qui n'était pas là il y a 40 ans aujourd'hui est pléthorique. Et la donnée également, qui était difficile à stocker sur une disquette. Aujourd'hui, on n'en compte plus. On parlait tout à l'heure, la donnée ne fait que se développer. Et cette donnée, c'est le carburant pour le machine learning. Sans ça, on ne s'en serait pas là aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est un tel enjeu, tant économique que technique, que de collecter un maximum de données aujourd'hui dans tous les sens. C'est ce qui permet d'alimenter un modèle.
Alors, il y a le machine learning, puis il y a le deep learning. Là, c'est encore un cran supérieur.
Complètement. Enfin, on est toujours dans cette même famille, mais on passe sur un niveau d'abstraction encore supérieur. Là, le deep learning, ça se base sur des travaux qui sont issus un peu de la... On a regardé comment le cerveau humain fonctionnait avec des réseaux de neurones. On s'est dit, bon, si on réplique ça, on va essayer d'avoir des choses qui se rapprochent davantage de l'intelligence humaine. Et donc, finalement, en fait, on vient mettre un réseau de neurones artificiels qui ont un comportement de neurones, mais simplifié, enfin adapté à une machine. Et on lui donne en données, en entrée, un grand, grand volume d'informations. Et en fait, ce réseau de neurones va s'articuler et apprendre de ce contexte de manière encore un petit peu plus obscure que les modèles précédents. Parce que plus on complexifie ces règles, moins l'humain qui a lui-même codé comprend exactement ce qui se passe dedans. Mmh. Et limite, peu importe, c'est un ordonnancement, hein, c'est du désordre naît une sorte d'ordre à travers tous ces neurones, et plus il y en a, plus le modèle est complexe, et plus on peut arriver à des choses intéressantes. Aujourd'hui, dans la reconnaissance du langage, la reconnaissance des images, il y a des telles bases de données qui sont disponibles que ces approches-là permettent d'avoir des résultats très intéressants, et c'est ce sur quoi le gros des travaux se focalise. Et ce qui est intéressant à garder en tête, c'est que c'est pas forcément mieux. C'est différent, ça permet de faire des choses plus complexes, mais dans certains cas d'usage, si j'ai pas beaucoup de données, le deep learning ne servira à rien. Parce que le corollaire du deep learning, c'est qu'il faut beaucoup de données. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si on a peu de données, c'est d'autres outils, très bien, qui sont disponibles dans la banette du data scientist qu'il faudra employer.
Bon, voilà, finalement, comme toujours, en informatique et ailleurs, il n'y a pas de miracle, il y a juste un peu de travail et des outils qui sont appliqués à certains usages. Alors, si on se focalise sur le machine learning, bon, éventuellement un peu le deep learning, où est-ce qu'on peut retrouver de l'intelligence artificielle? À quel endroit du cycle de vente va-t-on pouvoir l'insérer? Et de la vraie, hein, pas, on racontait pas des histoires, hein, de la vraie intelligence artificielle. Hein.
C'est vrai que c'est facile de tomber dans le travers de dire qu'il y a de l'intelligence artificielle, parce que finalement, le développeur, il a un ensemble d'outils, et le data scientist est dans une chaîne complexe, hein, où il y a du développement informatique plus classique et des briques plus avancées qui utilisent de l'intelligence artificielle. Elles sont rarement toutes seules, elles marchent de concert avec d'autres, mais c'est souvent le cœur du réacteur. Hein. C'est là où on apporte une plus-value qu'on n'aurait pas pu apporter différemment. Donc, ça, les deux marchent de pair, mais si on veut vraiment mettre l'accent un petit peu sur là où on fait des choses aujourd'hui qu'on ne pouvait pas vraiment faire avant, et si on décompose un peu le cycle de vente, le but à chaque fois, c'est d'essayer de soustraire l'homme à des tâches un peu répétitives ou à moins forte valeur ajoutée. Donc c'est là-dessus que, depuis maintenant presque un siècle, la machine, qu'elle soit informatique ou non, vient nous assister. Plus on avance, plus le fossé se réduit, par contre, entre ce qu'on est en capacité à faire et ce que la machine est en capacité à faire. Et donc, dans le cycle de vente, la première chose, c'est identifier le compte qu'on souhaite prospecter. C'est un peu l'aiguille dans la botte de foin, et plus le champ est grand, plus ce travail est soit hasardeux, soit pénible. Parce que il faut aller identifier chaque compte, voir pourquoi est-ce qu'il serait intéressant, pourquoi au contraire il est pas du tout dans ma cible. Et là, je pense que c'est clairement là où l'IA aujourd'hui apporte le plus de valeur, parce qu'on est sur un grand nombre d'acteurs qui se décrivent par un grand nombre de variables. Une infinité, mais il y en a qui sont standards, il y en a qu'on peut récupérer. Bon. Plus on arrive à décrire une société de manière fine, plus son identité numérique devient palpable et donc exploitable par des modèles. Donc pour moi, c'est le premier enjeu où l'IA va permettre de gagner du temps, parce que on classe et on ordonne des comptes dans un espace très vaste, et du coup on fait gagner du temps au commercial. Soit une entreprise n'a pas assez de commerciaux pour attaquer tout son terrain de jeu, et auquel cas il faut commencer par les meilleurs, soit elle en a beaucoup parce qu'elle ne pouvait pas se faire autrement que d'optimiser pour aller taper toutes les sociétés de son compte, et auquel cas, si on leur donne, elle va pouvoir soit retailler la taille de ses équipes, soit plutôt faire se concentrer ses équipes sur une valeur à plus forte ajoutée. Des tâches à plus forte valeur ajoutée qui vont être, on va le voir plus tard, la relation, parce que c'est là où vraiment le commercial pour moi apporte une valeur qui est loin d'être à la portée de l'IA. Oui. Si je déroule ensuite dans le cycle, une fois qu'on a identifié le bon compte, c'est comprendre si c'est le bon moment pour l'adresser, comment est-ce que je vais le contacter, qu'est-ce que je vais dire à la personne à qui je vais avoir au bout du fil ou à qui je vais écrire. Là, le commercial va avoir à sa disposition des sources classiques, hein, le web en général, quelques outils, mais c'est vaste, par où commencer. Donc, il faut qu'il creuse, c'est un travail d'investigation. Là aussi, l'IA peut être d'une aide, parce qu'elle peut compresser ce temps en mettant à disposition une sorte de revue de presse, équivalent de ce qu'on faisait par le passé à la main de manière un peu fastidieuse. Ça peut être totalement pré-mâché. Et du coup, le commercial n'a plus qu'à s'alimenter de cette revue de presse pour définir, oui, c'est le bon moment, j'ai les bons arguments, les bons outils pour pouvoir engager. Donc ça, c'est vraiment pour moi les deux bastions sur lesquels l'IA va apporter tout son fruit.
On peut même imaginer, je suppose, au cours de la discussion, avec la captation de la parole et l'analyse de la parole peut-être en temps réel, enfin, là c'est un peu de la science-fiction, mais c'est possible d'un point de vue technique, d'avoir un système qui vienne, je dirais, être une béquille pour le commercial, qui vienne lui suggérer des arguments, des contre-arguments, mais en temps réel. Mais ça, on n'y en est peut-être pas encore, mais c'est possible.
Alors, c'est une bonne idée. Effectivement, on en est loin, parce que la fluidité qui est requise dans une conversation et ce qui fait surtout la valeur du commercial aujourd'hui, c'est un, son empathie et surtout sa capacité à comprendre, et deux, sa capacité à comprendre les problématiques du client. Donc, c'est une capacité d'écoute et derrière, c'est une projection de cette difficulté dans une solution qu'il est en capacité à fournir. Et là, pour moi, c'est là où l'humain surpasse encore très, très largement la machine parce que il sait réagir de manière très fluide, très rapide, sans erreur. Si une machine, si on commence à lire des sous-titres en temps réel, on voit bien qu'on aura quelque chose qui sera. Mais bon, voilà. Pour l'instant, oui. L'avenir nous dira si on.
Mais après, c'est encore une question de rapidité de traitement et de qualité de présentation de l'information aussi, parce que la machine et surtout la personne qui a programmé la machine arrive à packager de l'information, des contre-arguments, des petites informations très courtes et brèves et faciles à lire pour le commercial, qui ne soient pas disruptives et qui lui permettent d'ajouter de la qualité dans sa discussion. Je le fais personnellement parce que j'ai peut-être un cerveau un peu différent des autres, je sais pas, mais j'arrive à faire. Quand je suis souvent avec un client, il me parle de son histoire et en même temps, je vais vérifier ce qu'il me dit sur Internet. J'écoute ce qu'il dit, c'est difficile, et faire autre chose en même temps. Mais c'est très, très puissant parce que quand on est capable de faire les deux, eh bien, on est capable de rebondir sur ce qu'on voit, à dire, ah oui, vous me parlez de ça, ben oui, mais moi, j'ai vu ça et là, c'est très, très puissant parce que du coup, ça permet de faire de l'argumentation en temps réel. C'est très appréciable.
Ce qu'on voit aujourd'hui sur des solutions, c'est vraiment cette transcription du langage. Maintenant, ça fait longtemps, mais maintenant, on a des outils qui formalisent un petit peu et qui packagent tout ça dans une approche commerciale, de manière déjà à pouvoir revenir sur une discussion, pouvoir identifier des concepts et pouvoir y revenir. Donc, on voit bien qu'on est à peu de choses près. Il manque plus que cette capacité de suggestion que vous évoquiez, qui est certainement un outil de demain.
Parfait. Bon, il faudra qu'on travaille là-dessus et qu'on spécifie le futur. En attendant, ça fait une excellente transition parce qu'on en est saturé d'informations sur le fait que les individus vont disparaître dans le travail de demain et qu'ils seront remplacés par des robots. Mais finalement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la machine va réaliser certaines tâches qui sont répétitives, pas forcément très marrantes ou très difficiles parce qu'elles nécessitent beaucoup de données et beaucoup de traitements. Mais que finalement, l'homme, ou la femme d'ailleurs, va devoir continuer à travailler. C'est plutôt une bonne nouvelle.
J'ai envie d'être optimiste dans cette discussion de toute manière, sinon à quoi bon ? Mais clairement, l'homme avec un grand H, il faut lui trouver un avenir. Et effectivement, si on est dans un futur où il n'aura plus qu'à se tourner les pouces, c'est un peu triste. Ce qui est sûr, c'est que la machine va continuer à automatiser tout ce qui, si on essaye de définir, tout ce qui nécessite le moins de créativité dans notre quotidien. Tous les modes, tout ce qu'on fait un peu par instinct et de manière un peu automatique, un jour ou l'autre, on va être rattrapé. Tout ce qui nous demande de nous creuser le cerveau pour trouver des nouvelles façons de résoudre un problème, ça va être un petit peu plus dur. En tout cas, avec les approches qu'on a aujourd'hui. Alors évidemment, si demain on a une approche révolutionnaire dans l'IA, on sera peut-être rattrapé. Mais le temps, en tout cas, va passer par tout ce qui est automatisable. On le voit, même dans des domaines dans la médecine, où on a des diagnostics de santé qui peuvent être complexes. Et en face, on a des médecins qui ont passé presque une décennie à étudier le sujet, qui peuvent se faire rattraper par des IA spécialisées dans l'analyse de radio, etc. demain peut-être la conduite automatique qui reste un peu la panacée de on va dire de notre civilisation actuelle et de notre déplacement rapide, et derrière d'autres métiers certainement qui ont justement une sorte d'automatisation des gestes et des modes de pensée. Mais les processus créatifs, eux, ça reste encore plus difficile. Et quand je dis créatif, beaucoup de choses sont créatives. Même écrire, une chanson, c'est évidemment, on pense à la créativité, mais écrire du code, c'est tout aussi créatif. Avoir une conversation qui part un peu dans tous les sens, c'est créatif.
Mais la vente est créative par nature.
La vente par nature, on est dans de l'inconnu et chaque vente est un peu un processus personnalisé. Donc là, on voit quand même que c'est ces postes-là, enfin pour moi, c'est ces postes-là qui vont conserver en tout cas une valeur. Mais il va falloir qu'on réinvente tout un tas d'autres métiers qui eux vont perdre une certaine partie de leur valeur ajoutée et donc on va redimensionner le temps qu'on consacre peut-être à d'autres activités.
Quand on y réfléchit bien, les métiers qui disparaissent et les métiers qui naissent, contrairement à ce qu'on entend dire aussi un peu partout, c'est quelque chose d'éternel. Donc c'est une bonne chose, au moins il y aura un peu de nouveauté. Il y a un truc qui me titille aussi un peu sur le machine learning, notamment je pratique beaucoup la reconnaissance vocale et la reconnaissance naturelle du langage, aussi bien par écrit, avec la reconnaissance naturelle du langage, et la reconnaissance de la voix, c'est que de temps en temps, on voit des cas de régression. Alors ça, c'est quelque chose qui a déjà été décrit dans la littérature, mais que j'ai pu observer, moi, sur le terrain. C'est-à-dire, on a une IA qui va améliorer la reconnaissance jusqu'à un certain point, basée sur la donnée qui grossit, qui grossit, qui grossit. Puis au bout d'un moment, on arrive à un plateau, et même des fois, une régression. Alors comment ça se fait ?
Alors... La régression, ça fait partie du quotidien du data scientist parce qu'il essaie en permanence de faire mieux. De faire mieux par rapport à un ensemble de données qu'il a à sa disposition. Régression, donc c'est faut pas confondre avec une autre composante du machine learning très basique qui est la régression linéaire, qui est un mode d'apprentissage ultra simplifié. Mais quand on régresse en qualité, c'est bien souvent qu'on a essayé d'améliorer certains aspects. Mais en améliorant certains aspects, on essaye de faire rentrer, il y a une partie qui ressort de la boîte, et qu'on ne mesurait pas suffisamment bien, et donc on ne s'en est pas rendu compte au moment de la livraison. Ou alors qu'on estimait que la plus-value de ce qu'on apportait permettait d'accepter une dégradation dans certains cas de figure. En tout cas, il y a toujours un compromis, c'est-à-dire que n'importe quel algorithme de machine learning, il fait un compromis entre qualité et ce qu'on appelle le rappel, mais donc la complétude, la capacité à traiter tous les cas qu'on lui présente. Et soit il les traite tous, auquel cas il dégrade sa qualité, soit il accepte d'en perdre une partie qu'il n'est pas en capacité à traiter, mais il se fixe un certain niveau de qualité. Généralement, aujourd'hui, on travaille de manière à se dire, voilà, mon niveau de qualité, c'est tant. Si je prends l'exemple de la voiture automatique, on peut se dire, je ne veux pas d'accident à moins d'avoir fait 1 million de kilomètres. Et si je ne sais pas gérer, je rends la main, je m'arrête et je donne la main au conducteur. Bon, évidemment, encore faut-il pouvoir le faire. Mais une régression, c'est une amélioration de certains aspects, en général, si on mesure bien, avec potentiellement une dégradation dans certains cas de figure, peut-être plus marginaux, mais qui peuvent bien sûr être constatés par l'utilisateur.
Bon, on espérera que... Les voitures autonomes ne partiront pas en régression logicielle, parce que sinon, ça serait un peu gênant. Il y a des gens qui sont encore très sceptiques sur le déploiement de la voiture autonome, non pas pour des raisons techniques, mais tout bêtement pour des raisons d'acceptabilité sociale. Parce que effectivement, il y aura de la casse, c'est inévitable, il y a toujours de la casse, mais ce qu'on peut supporter d'un homme, on peut peut-être plus difficilement le supporter d'une machine. Alors, pour conclure, on a dit que l'IA faible était majoritaire, l'IA forte, c'est encore un peu dans le rêve, mais si on rêve un peu et qu'on se projette dans le futur, est-ce qu'on peut imaginer qu'elle puisse, puisqu'elle est forte, remplacer une bonne partie du vendeur, et peut-être que ça arrivera beaucoup plus dans le bas du marché que dans la vente complexe, par exemple?
C'est probablement une certitude qu'on en vienne à remplacer. Alors, moi, en y pensant, je pense que c'est pas tant qu'on va remplacer le vendeur parlant à l'acheteur, que carrément remplacer toute la relation, c'est-à-dire acheteur et vendeur. Et qu'on ait en fait une IA forte vendeuse, une IA forte acheteuse, que les deux dialoguent entre elles. D'ailleurs, elles n'ont même pas besoin d'être des IA fortes, hein. Elles peuvent tout simplement être une IA spécialisée dans la vente, une IA spécialisée dans l'achat. Chacun a ses paramètres. Moi, j'essaye de baisser le coût pour acheter à la meilleure valeur par rapport aux fonctionnalités qui me sont offertes, par rapport aux SLA qui sont proposées, par rapport aux conditions de réengagement, etc. Enfin bref, une multitude de critères. Et l'IA qui vend, elle a ses contraintes de marge, de CA, etc. Et elle va essayer d'optimiser. Les deux vont dialoguer entre elles, ça sera une vente instantanée.
Oui. Et quand on y réfléchit, ça existe déjà depuis longtemps. Ça existe dans le trading électronique, hein, qui est présent. Peu de gens le savent, mais déjà depuis les années 2000, plus de 80% des transactions financières. Et ça, c'est possible parce que ce sont des transactions qui sont mathématiquement fermées.
Bornées, oui.
Voilà, bornées. On sait que c'est une action, on sait que ça a une valeur, on sait que ça a un spread, etc. Et ça, ce sont des choses qui sont mesurables et qui sont tangibles, alors que dans la vente complexe, on achète des choses qui sont peut-être un peu moins tangibles.
Elles sont moins matérialisées, effectivement, par des variables objectives. Mais vous parliez de la bourse, mais c'est aussi le cas dans l'énergie. Dans l'énergie, on a de plus en plus des microtransactions en permanence entre différents fournisseurs d'électricité, qui a une batterie qui peut se démarrer en une seconde, qui a un barrage qui démarre en un quart d'heure, qui a une centrale à charbon qui démarre en 4 heures. Bref, on a là une gestion d'un marché complexe qui est de plus en plus automatisé par des règles d'IA spécialisées. Clairement, je suis assez convaincu qu'on va aller de plus en plus vers à chaque fois des briques d'IA un peu partout. On parle de la vente, mais aussi dans la gestion de l'entreprise. Hein, finalement, à tous les niveaux, on a pléthore d'indicateurs dans chaque service. Et plus l'entreprise est grande, plus il y a des indicateurs. Plus une part du management passe son temps à créer ces indicateurs, à les expliquer et à en faire de nouveaux, fondamentalement, c'est exactement ce pourquoi la machine est faite, c'est-à-dire travailler de la donnée, optimiser par rapport à un ensemble de critères qui vont être, j'en sais rien, pour certains ce sera la marge, pour d'autres le CA, pour d'autres critères éthiques ou environnementaux, enfin bref, qu'on pourra définir en amont. Et ensuite, l'entreprise pourra être piloté à travers un outil de ce type-là.
Donc ça, effectivement, on peut concevoir que dans ces domaines de commodité, c'est des marchés de commodité, effectivement, on est des machines qui parlent avec des machines. Et vous imaginez ça dans combien de temps, à peu près ?
Certainement moins qu'on ne le pense, parce que quand on est sur des croissances un petit peu exponentielles comme on a dans ces domaines-là, notre façon de réfléchir, qui est un peu linéaire au temps, nous met souvent en défaut. On le voit bien avec la pandémie actuelle, hein, on a des croissances exponentielles et des décroissances, on a toujours l'impression que ça va arriver plus tard que la situation ne se présente réellement. Notre cerveau n'est pas câblé vraiment pour penser exponentiellement en termes de temps. Donc, quand est-ce que ça arrivera ? Probablement dans la décennie à venir. Alors, en tout cas, pour la partie un peu optimisation des process et peut-être conversation. Après, on va toujours avoir un continuum qui va aller vers des processus de plus en plus complexes. Mais si on extrapole, hein, un gouvernement, ça n'est ni plus ni moins qu'une suite d'indicateurs et des décisions qu'on prend par rapport à des macro-décisions politiques. Donc, si ces macro-décisions sont définies à l'échelle la plus élevée, l'administration ne fait que transposer ces décisions à différents services avec différents indicateurs. Là aussi, il est probable qu'un jour on en vienne à se doter de ces outils et que progressivement ça remonte et ça soit de plus en plus unifié. Après, la question des biais est très importante. On le voit, l'intelligence artificielle, c'est biaisé par... ça simplifie la réalité, une intelligence artificielle. Donc, ça prend des raccourcis, ça peut faire des stéréotypes. Et plus la donnée est incomplète ou parcellaire, plus ces stéréotypes sont forcés. Donc, pour avoir quelque chose de pertinent, il faut avoir une donnée la plus variée, la plus riche possible. C'est là où il faut faire attention à cet Eldorado. C'est que tout n'est pas, c'est pas parce qu'on met de l'IA que les résultats sont bons et fiables. Il faut mettre le bon algorithme au bon endroit avec les bonnes données. Et surveiller que l'usage qu'on en fait est bon. Surtout quand on sera dans des situations où l'impact sociétal est fort et l'impact humain derrière peut être terrible. Donc il faudra les garde-fous qu'on a sur ce domaine restent à construire. Et c'est peut-être là le plus gros du travail qu'on a à faire, c'est anticiper. On n'est pas très bien câblé pour anticiper, mais c'est ce qu'on devrait faire le plus souvent.
Vous écoutez bien les podcasts de Sparklane sur le blog Sales and Marketing Insiders, le blog d'information sur la vente en B2B.